Et donc, nous continuons une série de prédications depuis déjà le mois de septembre sur les thèmes qui tournent autour de la protection de la planète et surtout de la protection de l'humanité. Donc le thème du jour, choisi parce que nous savions en effet que c'était le culte de souvenirs, c'est Dieu créateur face au mal. Évidemment avec la personne de Job. Comment parler en effet du mal sans évoquer Job? Alors c'est un peu complexe parce que le livre de Job est long, difficile, 42 chapitres, et que je n'allais pas vous lire les 42 chapitres du livre de Job. Donc j'ai fait quelques coupes pour en sortir les passages qui m'ont semblé les plus importants. D'abord, la plainte de Job au chapitre 3. Après cela, Job prit la parole et maudit le jour de sa naissance. Job dit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle a été conçu ». Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu ne le recherche pas de là-haut, que sa lumière ne brille pas sur lui, que les ténèbres et l'ombre de mort le réclament, que des nuées demeurent au-dessus de lui, que l'obscurcissement du jour le remplisse d'effroi. Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse pas avec les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, qu'il n'y ait pas en elle de cris de joie, qu'elle soit vouée à la malédiction par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent éveiller Léviathan. Que les étoiles de son ombre s'obscurcissent, qu'elle espère la lumière et que celle-ci ne vienne pas, qu'elle ne voit pas la lueur de l'aurore. Et puis, bien plus loin, si Job se plaint, si ses amis viennent essayer d'échanger avec lui, Dieu va enfin prendre la parole. Et voici ce qu'il dit lorsqu'il commence à prendre la parole au chapitre 38. L'Éternel répond à Job du milieu de la tempête. « Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance ? Tiens-toi prêt, je te prie, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures ? Le sais-tu ? Ou qui a tendu sur elle le cordeau ? Dans quoi ses bases se sont-elles enfoncées ? Qui en a posé la pierre angulaire ? Alors qu'ensemble, les étoiles du matin, criant de joie, et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Qui a enfermé la mer avec des portes, quand elle s'élança pour sortir du sein maternel ? Quand je fis la nuée, son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes. Quand je lui fixai mes prescriptions, et que je lui mis des verrous et des portes. Et quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil des flots. Et au chapitre 40, tireras-tu Léviathan avec un hameçon ? Liras-tu sa langue avec une corde ? Passeras-tu un roseau à son museau ? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet ? Et puis un des derniers versets, lorsque Job est rétabli. L'Éternel rétablit la situation de Job quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu. Et enfin, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 27, les versets 22 et 23, Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Alors ils crièrent de plus belle « Qu'il soit crucifié ». Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. La plupart d'entre nous connaissent le livre de Job. D'ailleurs, dans notre société actuelle, le livre de Job est un livre finalement assez connu, même dans une société relativement déchristianisée. En réalité, ça a même donné une phrase, « pauvre comme Job », puisque tous les malheurs lui tombent sur la tête. Et en effet, il commence au début très riche, Mais rapidement, il devient démuni de tout. Il perd ses biens, il perd ses serviteurs, il perd ses enfants et il perd sa santé florissante pour se retrouver sur un tas de cendres et de poussière avec une maladie absolument honteuse, épouvantable. Donc, l'histoire de Job commence bien mal. Il y a une sorte de prologue, en réalité, une espèce de discours entre Dieu et le Satan. Alors, je dis bien le Satan, et puis on peut ne pas lui mettre de majuscule, parce que finalement, le Satan, c'est l'accusateur, c'est l'adversaire, c'est toutes les figures, en tout cas, d'un certain mal. Donc, dialogue entre Dieu et le Satan, sorte de pari. Le Satan trouve qu'évidemment, Job est juste, puisqu'il a tout. Ah, c'est facile quand on a tout d'être juste. Bon, ça c'est à voir, mais bon. Alors Dieu dit, eh bien je vais lui retirer tout et il sera toujours juste. Et là, petit à petit, Job perd tout, jusqu'à sa dignité. Donc, ce prologue ne rend pas Dieu très sympathique, je trouve, personnellement. Cette espèce de chantage avec le Satan. Mais en réalité, mais on s'intéressera plutôt au reste du livre, en réalité, c'est presque une bonne nouvelle, ce prologue, parce que on a toujours l'impression que l'on peut compter sur Dieu pour tout, j'en suis persuadée, mais surtout, on croit que Dieu est une sorte de magie qui nous protégerait de tout, ou une espèce de Dieu doudou qu'on garderait, et puis quand on l'a auprès de nous, tout va bien. Eh bien là, dès l'entrée, le livre de Job s'inscrit contre cette vision de Dieu. Et nous le savons bien, nous le vivons bien dans notre existence, tout ne va pas toujours bien, le mal existe, la souffrance existe pour nous, pour les autres, pour le monde. Eh bien, dès le début, il y a quelque chose qui, à mon avis, enfin qui pour moi, m'interpelle très fort. Parce que des fois, nous doutons de Dieu, de sa puissance, mais lui, au début, ne doute absolument pas. Il fait une confiance totale, extrême à Job. Il sait que Job, malgré tout et contre tout, va rester juste. Dieu, au début, nous dit qu'il a confiance en Job. Et à travers cela, il nous dit qu'il a confiance en l'être humain. Eh bien, ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et Dieu a confiance en nous. Presque comme si Dieu avait besoin de nous. Mais le livre de Job va aborder d'autres thèmes. Je disais que le livre de Job, c'était le problème du mal. En effet, Job n'a rien fait, n'a rien mérité, et patatras, toutes les catastrophes lui tombent sur la tête. Et le livre de Job, c'est aussi, je l'ai déjà esquissé, une manière de revisiter nos images de Dieu, une manière aussi de revisiter la relation que l'homme a avec Dieu. En réalité, c'est un livre extrêmement puissant, un livre d'une grande profondeur, un livre tellement profond qu'il ne répond pas à nos questions. Et là aussi, je trouve que c'est formidable, parce qu'il nous invite à chercher, à continuer à chercher, et c'est la quête de Job et de ses amis, qui vont prendre presque 40 chapitres. Magnifique chapitre, parce qu'il faut bien le dire, le livre de Job est avant tout un très beau poème. J'aime la poésie, et la poésie de Job est absolument fantastique. Aussi bien lorsque Job crie sa détresse, que quand ses amis essayent de lui venir en secours, lorsqu'il loue la grandeur de Dieu, que quand Dieu prend la parole. C'est un très beau poème, et je pense que cette dimension poétique, eh bien, nous invite à aller au-delà du discours et à essayer de trouver quelque chose d'essentiel dans nos existences. Donc, dès le début, dès le prologue, se pose la question du mal, question qui est toujours la question de tous les philosophes et de tous les théologiens. Si Dieu existe, comment peut-il tolérer la souffrance des enfants? Comment peut-il tolérer le mal régnant sur cette terre? C'est le cri, la question d'Ivan Karamazov, le héros de Dostoïevski. C'est aussi la question qui va être reprise par Albert Camus tout au long de sa littérature. C'est la question de l'incompréhensible. C'est la question que faire face à l'absurde. Dans nos vies personnelles, mais également face au monde, face à ces champs de bataille sur tous les terrains, qu'ils soient économiques, écologiques, politiques, religieux, cette question est là, toujours présente, avec pratiquement aucune réponse. Job va donc faire l'expérience du mal dans sa chair. Et c'est ce déferlement du mal sur lui, sans explication, sans raison, auquel il va essayer de répondre. Je dis ça, mais en réalité, j'ai l'impression que Job n'essaye jamais d'y répondre. Job va d'abord se taire, 7 jours et 7 nuits. 7 jours et 7 nuits qui nous rappellent le premier récit de la création. 7 jours et 7 nuits de silence peut être indispensable avant de pouvoir prendre la parole. Et lorsqu'il prend la parole, il le prend dans une plainte. Cette plainte qui nous rejoint, nous, à chaque fois que nous ne comprenons pas. Périsse le jour où je suis né. Cette plainte qui rejoint tous les humains. Cette plainte, vous savez, lorsqu'on est... Alors, les aumôniers militaires, j'imagine, moi, je suis aumônier de prison, ce n'est pas tout à fait les mêmes lieux, mais c'est quand même un lieu fermé où il y a énormément de souffrance. Eh bien, je peux vous dire combien la plainte de Job est libératrice. Elle libère parce qu'elle nous fait rencontrer un homme qui, comme nous, ne comprend pas. Mais il fait une chose essentielle. Il parle, il se plaint, il parle à Dieu. Jamais il ne rompt, jamais il ne coupe la conversation avec Dieu. Certes, il lui a fallu une sorte d'élan de création et d'élan de créativité, 7 jours et 7 nuits, pour pouvoir prendre la parole. Mais une fois qu'il la prend, eh bien, il tient bon. Il tient bon contre son mal et sa souffrance. Et il tient bon contre toutes les explications qu'on va lui annoncer, qu'on va lui avancer. Parce que 3 amis viennent le voir pour le consoler. Alors, on les a beaucoup critiquer ses amis. Tous les commentateurs disent vraiment, au lieu de venir le voir, le consoler, eh bien, ils en rajoutent une couche. Ils lui disent, ils n'ont de cesse de lui dire, écoute, mon vieux, si t'arrives tout ça, c'est qu'il y a bien quelque chose dans ta vie qui colle pas. T'as bien dû faire quelque chose de mal. Et Job tient bon. Non, je suis juste. Non, finalement, je ne méritais pas ça. Et d'ailleurs, quelle faute peut mériter un tel mal que celui que Job doit affronter? Eh bien, ses amis, on peut les critiquer. Ils sont dans cette théologie classique qu'on appelle la théologie de la rétribution. Si vous faites le bien, eh bien, vous allez récolter du bien. Et puis, si vous faites le mal, eh bien, probablement que vous aurez à en payer les fautes. Seulement, on le voit bien autour de nous, il y a des justes qui ne vivent pas si bien que ça, et il y a des salauds qui prospèrent. Donc, finalement, la Bible prend en charge les questions qu'on peut se poser. Eh bien, en réalité, Job, lui, tient bon. Alors, je ne vais pas mettre de côté la théologie de la rétribution et dire qu'elle ne vaut rien. Bien au contraire. Je pense qu'il faut garder cela et essayer de faire le bien. Parce que quand on fait le bien, ça va quand même mieux au fond de nous, même si ça ne réussit pas toujours. Et puis, quand on fait le mal, si on est normalement constitué, c'est pas tout à fait le cas de tout le monde, mais on va dire, quand on fait le mal, eh bien, c'est parfois difficile de continuer à vivre. Alors, la théologie de la rétribution, elle est, à mon avis, une bonne théologie, une théologie à enseigner, et pas qu'au niveau théologique, d'ailleurs, dans la vie, quand on éduque nos enfants, eh bien, il faut bien leur apprendre que les actes que nous faisons peuvent avoir des conséquences. Même si parfois on trouve qu'il y a des injustices, eh bien, on peut continuer, parce que tout de même, c'est un chemin difficile, mais c'est un chemin, à mon avis, juste. Mais évidemment qu'il ne suffit pas d'avoir cette théologie. Et c'est tout l'intérêt de la Bible, c'est les dialogues entre tous ces courants théologiques. Eh bien là, Job est face à un écueil, l'écueil de cette théologie et l'écueil de cette vision de Dieu. Comment peut-on prêcher un Dieu tout-puissant, un Dieu bon et un Dieu juste, et accepter que le mal règne parfois dans nos existences et sur notre terre? Eh bien, c'est cela auquel va essayer de répondre le livre. Alors, je ne voudrais pas mettre de côté les amis. Finalement, les amis, ils viennent, ils essayent de le consoler comme ils peuvent, avec les mots qu'ils peuvent. On sait bien que ce n'est pas facile de s'approcher des gens qui souffrent et de leur donner des mots de consolation. Et puis, finalement, les amis, eh bien, ils l'ont boosté, Job. Il n'est pas resté là sur son tas de cendres à se plaindre tout le temps. Il a essayé de répondre. Et finalement, les arguments qu'ils avancent, il n'est pas d'accord, mais ça lui permet petit à petit de sortir de son tas de cendres. arrive après un autre personnage, Eliou, qui vient dire « Eh bien, finalement, ne te pose pas trop de questions. Dieu est tout-puissant, donc si t'arrive ça, c'est parce que Dieu l'a voulu, et si Dieu le veut, c'est bien. » Bon, bah, ce n'est pas tellement l'image de Dieu que je me fais non plus. Et peut-être que là, on a de nouveau un écueil face à ces questions. Eliou, probablement, se trompe aussi. Dieu est grand et puissant, nous ne le comprenons pas, mais il a raison. Ben, ça ne me convient pas vraiment, à vrai dire. Autant la théologie de la rétribution, j'y arrive un peu, autant ça, j'ai un peu plus de mal. Mais je pense qu'il faut aussi entendre ces explications. En effet, nous ne sommes pas Dieu. Et parce que nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas tout comprendre. Certes, nous ne pouvons pas comprendre Dieu, mais nous ne pouvons pas tout comprendre de tout ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, nous sommes invités à analyser, à avancer, à essayer de nous battre contre le mal, mais nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais ne pas tout comprendre, cela ne veut jamais dire se résigner, tout accepter. Cela ne veut pas dire abdiquer devant le mal et toutes ses forces. Et c'est peut-être ce que Dieu vient dire à Job lorsqu'il apparaît. Dieu laisse quand même Job, ses amis, Eliou, se dépatouiller un petit peu. Je vous disais qu'il faisait confiance à l'homme, et Job reste avec ses questions, mais Job tient bon. Eh bien oui, il continue à parler avec Dieu, et il continue à dire que lui est juste, et que finalement, peut-être que Dieu a raison, mais il ne comprend toujours pas. Eh bien, Dieu arrive, et rassurez-vous, il ne va pas donner de réponse. Ça serait trop facile. C'est de nouveau à nous qu'il faut aussi comprendre et répondre. Et c'est tout de même assez étonnant. C'est que Dieu, lorsqu'il se présente, au lieu de consoler Job, finalement, c'est une image de Dieu qu'on a bien. On le dit bien, Dieu vient avec nous, il est à nos côtés dans nos souffrances. Bien sûr que c'est vrai. Mais Dieu ne console pas Job. Dieu ne donne aucune raison à ce qui s'est passé. Et Dieu lui dit, lui rappelle simplement une chose, il est lui, le Dieu créateur. Il a créé l'univers, il a créé les animaux. D'ailleurs, c'est un très très beau poème, lisez-le. Les chapitres 38 à 40 sont magnifiques. Et il est là, il a créé le monde. Ça nous renvoie évidemment au récit de la création en 7 jours, vous l'avez entendu. Récit de création tout à fait positif, merveilleux, celui de Genèse 1. Pas une négation dans tout ce récit. Et puis, tout est fait par beauté et par bonté. Dieu crée l'harmonie petit à petit par sa parole et par la douceur de sa parole. Eh bien, ça, c'est une manière de voir la création qui est inscrite au début de la Bible et qui, à mon avis, est très forte et quelque chose de tout à fait important. Mais il y a une autre manière de créer, c'est celle du combat contre le Léviathan. Vous avez entendu, par deux fois, il est question du Léviathan dans le livre de Job, on le retrouve aussi dans les psaumes. Qu'est-ce que ce Léviathan ? C'est une espèce de monstre primordial qui surgit de l'océan et qui entraîne le mal toute sa suite. Il est l'incarnation du mal. On va le retrouver d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, à travers la trois figures, celle du dragon, celle du monstre marin et celle de l'autre monstre. Eh bien, on retrouve, c'est l'incarnation du mal qui nous arrive du Proche-Orient ancien. C'est Dieu nous dit là, en faisant référence au Léviathan, il nous dit deux choses. D'abord, qu'il faut quitter nos images archaïques. Parce que si on lit bien Job, le Dieu auquel font appel à la fois Eliou et les amis est un Dieu archaïque qui est maître de l'orage, vous savez, un peu comme le Dieu Baal. Vous pouvez aller le voir au musée du Louvre, ça aussi c'est pas mal, dans la salle d'Ougarit, et on voit le Dieu Baal, jeune Dieu, beau, guerrier, magnifique, tenant la foudre entre ses mains. Eh bien, le Dieu, notre Dieu, le Dieu de Job, le Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ, n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Donc il faut quitter nos images archaïques, et puis quitter aussi peut-être les images un peu archaïques du mal, et puis après tout, voir en Dieu aussi celui qui a combattu le mal. La création se fait aussi par le combat contre le mal. D'ailleurs, le livre de Job n'est-il pas un vrai récit de création ? Puisque d'abord, il se met à parler. C'est la parole. la parole de Job, de ses amis, ces paroles qui vont commencer à s'articuler et à articuler petit à petit le monde de Job autour de lui. Nous le savons, il faut parler. Il faut parler pour se comprendre. D'ailleurs, le premier meurtre dans la Bible, Caïn et Abel, pas une parole. Ah, Caïn, il est jaloux, paf, il tue Abel et puis il ne demande rien à personne. Eh bien non, nous le savons, il faut parler. Alors je sais qu'il y a beaucoup de militaires aussi aujourd'hui, mais on le sait bien que dans les situations où il y a des combats, c'est certainement avant tout, à un moment donné, par la parole que tout va pouvoir advenir. On le sait, on le dit, que ce soit en Syrie, que ce soit en République centrafricaine, dans tous les lieux de combat, eh bien c'est la négociation, c'est la parole qui fait que petit à petit, eh bien l'avenir va pouvoir s'ouvrir. Mais le combat n'est pas gommé pour autant. La création, créer un nouvel homme comme ce Job qui va sortir à la fin, demande aussi le combat contre le mal, ce combat contre le Léviathan. Alors, c'est quelque chose auquel j'ai du mal à... C'est quelque chose que j'ai du mal à admettre, mais finalement, dans le livre de Job, il existe bien une force du mal, complètement indépendante de Dieu. Alors, cette vision un peu binaire et nous semble dépassée, mais finalement... C'est peut-être une manière de se sortir de cette solution. Il existe une force du mal que nous sommes appelés à combattre. Et cette force, c'est la force qui nous ramène au chaos primordial. Vous savez, ce chaos de Genèse 1, ce tohu-bohu qui existe au départ, et ce tohu-bohu qui risque de, dans lequel nous risquons de retomber tout le temps. Parce que la création, ce n'est pas quelque chose qui a été fait il y a 5000 et quelques années. Non, la création, c'est tous les jours. Et c'est à nous aussi de continuer à construire ce monde que Dieu aime, ce monde que Dieu désire. Alors, le livre de Job, en effet, ne répond pas à la question du mal. Il ne répond pas, en tout cas, à la question de l'origine du mal. Mais pour reprendre la belle phrase du philosophe Paul Ricoeur, s'il ne répond pas à l'origine du mal, il nous donne une direction. Peut-être que l'important, ce n'est pas l'origine du mal, mais l'avenir du mal. Le combat, il est là. Oh, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher l'origine des choses. Et puis, on le voit bien, puisque finalement, au départ, cette prédication s'inscrit dans une réflexion sur la climatologie. Eh bien, oui, on peut chercher l'origine des dérèglements. Et quand on les connaît, c'est toujours mieux pour les combattre. Mais parfois, il faut faire le deuil de l'origine du mal avec un grand M. Pas chercher le pourquoi du comment, le pourquoi du comment de ce qui nous arrive. Parfois, finalement, peu importe la raison, ce qui est important, c'est de nous tourner vers l'avenir et vers l'avenir du mal et dire que oui, nous pouvons vaincre ce mal. Nous pouvons le vaincre de manière intérieure, parce que le mal, c'est aussi nos combats intérieurs, mais nous pouvons aussi le vaincre ensemble, dans la société. C'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel à comprendre dans nos vies. Ne nous focalisons pas trop sur nos questions qui n'ont pas de réponse. Bon, je veux dire quand même qu'il faut se poser des questions et continuer à chercher. Il ne faut pas non plus balayer ça d'un coup de main. Mais mettons aussi notre force, notre énergie pour vaincre le mal et pour qu'il disparaisse complètement. Alors oui, le livre de Job, c'est un véritable récit de création. Cet homme qui est sur les cendres et la poussière, eh bien, petit à petit, va pouvoir envisager l'avenir autrement. Petit à petit, ses images de Dieu et nos images de Dieu vont changer. Petit à petit, il va se détourner du pourquoi et du comment, grâce probablement au discours de Dieu qui se présente à lui comme un Dieu créateur, avec un minimum d'humour en lui disant « de toute façon, tu n'arriveras jamais à être comme moi ». Mais peu importe, tu peux quand même faire des choses. Eh bien, petit à petit, va apparaître un homme nouveau, un homme qui va être restauré. Alors évidemment, la fin de Job est un peu... Bon, après tout, il faut le prendre aussi comme un roman. On nous dit qu'il retrouve tout et que, voilà, il va même avoir le double de richesse. Il retrouve tout, mais tout de même, il le sait. Il est passé par la souffrance, par le mal, par les cendres. Tout n'est pas comme avant. Donc, même s'il y a un happy end dans Job, il nous indique simplement, bon, peut-être on ne retrouvera même pas tout, mais qu'il faut continuer à être en relation avec Dieu et à être en relation avec les hommes pour essayer de sortir du mal, de sortir notre monde du chaos, en tout cas empêcher qu'il y retourne complètement. C'est, à mon avis, le cœur du message évangélique. Parce qu'on peut dire que l'ennemi commun à Dieu et à l'homme, c'est le mal. Et au cœur de ce mal, il y a cette question de Pilate lorsqu'il montre le Christ. Quel mal y a-t-il en lui ? Eh bien, il n'y a pas de mal en lui. Et pourtant, il va y avoir la crucifixion. Mais le récit de la crucifixion n'est pas un terme. Il y a après la résurrection. À mon avis, il faut toujours tenir les deux ensemble. Ces récits de la crucifixion et de la résurrection du Christ ne racontent jamais la terrible fin d'un condamné innocent, comme il en existe des milliers dans l'histoire humaine. Il essaye de dire une chose bien plus bouleversante. Dieu lui-même est là. Celui qui subit la mort est avec lui. Il ne reste pas confiné au tombeau. Il nous invite à laisser nos tombeaux derrière et aller de l'avant. Et c'est au nom du Dieu des vivants, du Dieu de la vie, que le combat de l'être humain pour plus de justice et plus de bonheur trouve là son sens profond. Amen.